Radio Okapi. Le journal en français est présenté par Belinda Bossouma.
La RDC, pays solution à la question de l'adaptation et de la résilience du monde entier devant le réchauffement climatique et ses conséquences. Déclaration de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement hier à la COP27 en cours en Égypte. Eve Bazaïba s'exprimait ainsi devant plusieurs dirigeants du monde présents à ses assises. La vigilance à laquelle le chef de l'État a fait allusion dans sa dernière adresse à la nation n'est nullement à confondre avec groupe d'autodéfense. Le ministre de la Communication et des Médias a fait cette mise au point lundi devant la presse face à la mauvaise interprétation remarquable au sein de l'opinion publique. Madame, Messieurs, bonjour. COP27 en Égypte, la RDC est le pays solution à la question de l'adaptation et de la résilience du monde entier devant le réchauffement climatique et ses conséquences. C'est en ces termes que s'est exprimée la vice-première ministre et ministre de l'Environnement hier à cette rencontre mondiale de haut niveau sur le climat. Eve Bazaïba a insisté que la RDC est la solution naturelle dont l'humanité a besoin pour séquestrer le gaz carbonique grâce au potentiel du bassin du Congo. On écoute Eve Bazaïba dans cet extrait. Très proposé par Alain Rong.
Il s'agit bien entendu de nous adapter à la nouvelle donne de réchauffement climatique, ce qui va nous permettre non seulement d'avoir la force résiliente de faire face à ces enjeux du climat, mais aussi et surtout contribuer à atteindre l'objectif que nous nous sommes assignés de maintenir la température planétaire à 1,5 degrés Celsius, car cela va de la vie de toute l'humanité. Pour ce faire, mon pays, au sein du bassin du Congo, la République démocratique du Congo, se présente à l'humanité comme étant un pays solution. La solution naturelle que nous recherchons, il s'agit du potentiel forestier que nous mettons à la disposition de l'humanité. Tout le monde le sait certainement, je voudrais juste rappeler que le bassin du Congo signifie 268 millions d'hectares de forêts tropicales humides dont l'humanité a besoin pour avoir la capacité nécessaire de séquestrer la pollution, nous appelons les COD, les gaz à effet de serre et autres.
Par ailleurs, la lutte contre le changement climatique et la protection des océans étaient également au centre des discussions hier dans la soirée à cette édition de la COP27 en Égypte. L'option a été levée pour la mobilisation des finances climatiques visant la restauration des berges, des océans et des mers. D'après le professeur Modeste Kisangala Moke, expert en hydrologie et en climatologie, les 47 kilomètres de l'océan Atlantique qui longe la RDC à partir de Mwanda et qui sont menacés par les érosions côtières nécessitent des travaux de protection à l'aide de ces financements climatiques. Professeur Modeste Kisangala explique au micro de Tatima Poukou.
Il y a des études qui montrent par télédétection que chaque année, nous perdons beaucoup de terres qui vont dans la mer, dans les océans. Mais en République démocratique du Congo, c'est plus, parce que mondialement, c'est 3 cm par an. Mais en RDC, nous sommes au-delà. Parce que quand on doit voir la progression, hein, les études faites dernièrement montraient que l'hôtel des mangroves était à plus de 100 mètres. Mais aujourd'hui, cet hôtel n'existe pas. Ici, on doit faire les études. On voit que la vitesse de récupération des terres à l'océan est plus grande en République démocratique du Congo. Donc, en tant que climatologue et hydrologue, nous devons chercher à protéger ce qui nous reste. Par exemple, construire en dur les berges de la République démocratique du Congo contre toutes les vagues qui viendraient pour creuser et éroder, n'est-ce pas, faire partie des terres. Donc, toutes les larges là doivent être construites en dur, comme ça se fait ailleurs dans les pays européens qui bordent notamment l'océan Atlantique et les autres mers.
Je vous l'ai dit dans le titre, la vigilance à laquelle le président de la République a fait allusion dans sa dernière adresse à la nation n'est nullement à confondre avec groupe d'autodéfense. Cette explication est du ministre de la Communication et des Médias lundi devant la presse. Patrick Mouyé a profité de la mauvaise interprétation des propos du chef de l'État pour s'adonner à des tracasseries et autres formes de représailles sur certains compatriotes à travers le pays. On écoute le ministre Patrick Mouyé dans cet extrait proposé par Alain Rong.
Le président de la République a parlé notamment de la vigilance, parce que j'ai reçu beaucoup de questions des médias à ces propos. La vigilance à laquelle fait allusion le président de la République n'est nullement à confondre avec groupe d'autodéfense. Il a bien parlé des vigilances, si vous avez suivi les propos, à côté des forces armées. Parce qu'on parle de traîtres, on parle de manipulation. Nous sommes ici, nous savons tous que le Rwanda nous accuse d'un discours xénophobe imaginaire. Il n'est pas exclu que l'on crée une situation où on s'en prend aux rwandophones ici en RDC pour après nous charger. Et donc, comme on aime dire aux États-Unis, « If you see something, say something ». Donc, si vous voyez quelque chose, dénoncez, parce que dans la défense de la patrie, chacun de nous a un rôle à jouer.
Entre-temps, sur le terrain, après le Nord Kivu, la province de l'Ituri enregistre l'arrivée de ses premières recrues qui répondent à l'appel du chef de l'État, celui de se mobiliser pour faire face à l'agression dont la RDC est victime par ses voisins. D'après le porte-parole de l'armée en Ituri, à ce jour, une cinquantaine de jeunes venus des différents territoires sont arrivés à Bunia. Le lieutenant Jules Ngongo dit que parmi ces jeunes figurent des filles qui acceptent de servir sous le drapeau. Il ajoute que le nombre des recrues augmente quotidiennement. Le lieutenant Jules Ngongo est au micro de Jean-Claude Loki.
Nous avons enregistré plus de 50 jeunes ituriens qui se sont enrôlés, qui se sont présentés à la 32e région militaire juste 24 heures après. Et hier, nous avons encore enregistré. Je pense qu'à la fin de cette semaine, nous vous dirons combien de jeunes qui ont répondu présents à l'appel du président de la République. Et donc l'objectif ultime, c'est que le chef de l'État veut vaincre l'ennemi avec ses propres fils et filles de la RDC. Et donc l'objectif pour nous, c'est à cette période et cette guerre d'agression, nous voulons de peupler les camps de l'ennemi et peupler les camps de la patrie.
Et puis, depuis le survol dans le ciel rwandais de l'avion de guerre congolais de marque Sukhoi Su-25, l'opinion se pose des questions sur la nature et les spécificités de cet appareil volant. Quelle est la spécificité de cet avion? Est-il vraiment efficace dans la guerre? Quels sont les pays qui s'en sont déjà servis et pour quels résultats? Pour éclairer la lanterne des Congolais, Radio Kapi fait une présentation de cet avion de guerre de marque russe que détient la République démocratique du Congo. Michel Kifindangoy.
Le Sukhoi Su-25 ou Corbeau Freux est un avion d'attaque au sol, de soutien aérien rapproché et de lutte anti-char développé par l'URSS dans les années 70. Il est capable d'atteindre des cibles fixes ou mobiles de petite taille au sol sans visibilité de jour comme de nuit. Cet avion monoplace ou biplace est protégé par un blindage en titane d'une épaisseur de 17 mm. L'appareil possède aussi plusieurs systèmes de guerre électroniques installés à l'intérieur de l'avion, un transpondeur ainsi que des récepteurs passifs d'alerte radar. Le Su-25 est un avion peu cher, d'une grande robustesse et très efficace. Il a été engagé lors de plusieurs conflits ou crises locales, dont la guerre d'Afghanistan 79-89, la guerre Iran-Irak 80-88, ainsi que l'actuelle guerre en Ukraine. La RDC s'est dotée en 1999 de 10 appareils Su-25K à 6 millions de dollars. Plusieurs autres pays africains comme l'Angola, le Mali, le Niger, le Soudan et le Tchad ont aussi des avions Sukhoi Su-25.
Direction le Sud Kivu. Les enseignants de certaines écoles primaires publiques ont débuté une grève de 3 jours. Ils réclament les arriérés de la prime de gratuité de 3 mois. En réponse, le service de contrôle et de paie des enseignants, Sécopé Sud Kivu, apaise les enseignants sur les tensions autour des arriérés de la prime de gratuité. Le directeur du Sécopé Sud Kivu rassure aux enseignants qu'une solution est en cours pour répondre à leurs attentes. Le chef d'antenne du Sécopé Sud Kivu l'a dit à la presse le lundi 7 novembre, Papi Bukoko. Dans cet extrait que nous propose Rachel Kiesse.
Je profite de vos micros pour apaiser les enseignants sur les différentes tensions qui sévissent ces derniers temps par rapport à la prime de gratuité qui venait de retarder. Je venais de recevoir les mémos de certains enseignants qui sont affiliés au CIECO. Après avoir contacté notre hiérarchie, il y a déjà une lueur d'espoir car une solution venait d'être trouvée au niveau de la Banque centrale pour les arriérer sur la prime de gratuité de 3 mois. Donc, nous demandons à tous les enseignants de prendre leur mal en patience. Ils verront une solution immédiate à leurs revendications et tous seront payés avec effet rétroactif. Conformément aux instructions en vigueur, il est strictement interdit aux écoles de renvoyer les élèves pour raison de non-paiement. Et nous informons au chef d'établissement qu'il nous a été instruit d'aller sur terrain palper les réalités. Et les contrevenants ne vont pas échapper à la rigueur de la loi.
Province du Tanganyika, le ministre provincial de la Santé a inauguré lundi dernier l'hôpital général de référence du cinquantenaire dans la cité de Manono. Cet hôpital moderne est le plus grand de la province du Tanganyika. Il va prendre en charge la population de la province. Des détails dans ce reportage de Paulin Munanga.
Cet hôpital moderne construit en 2010 sur financement du gouvernement central a une capacité d'accueil de 250 lits. Il a 8 pavillons, une morgue, un incinérateur. Presque tous les services y sont organisés. C'est entre autres la pédiatrie, la médecine interne, la maternité, une salle d'opération et autres. Il est équipé du matériel dernière génération. D'après des sources à Congolo, le matériel que le gouvernement central a doté à cet hôpital n'a pas été réceptionné dans la totalité. Les mêmes sources indiquent que sur 70 tonnes des matériels médicaux qui devraient être envoyés à cette institution hospitalière, seules 35 tonnes ont été réceptionnées. L'autre partie serait détournée. D'après les médecins directeurs, ce centre hospitalier était construit comme un hôpital de troisième échelon, c'est-à-dire il devrait abriter toutes les spécialités. Cependant, il n'y a pas de médecins spécialistes pour l'instant. Docteur Witor de Chomba ne donne aucune précision à propos des prix des soins médicaux, s'ils seront abordables pour la population. Kalemi, Polemunanga, Radio Okapi.
Nord Kivu, le conseil de la jeunesse du quartier Bengoulé, dans la partie sud-est de la ville de Beni, en commune de Béou, dénonce le manque de certaines infrastructures de base dans leur quartier. C'est notamment le terrain des jeux, le marché, des routes et même des structures sanitaires. En dépit des travaux réalisés par le projet Fonds social de la République démocratique du Congo dans le cadre de l'entretien de certaines artères, plusieurs coins du dit quartier restent enclavés par manque de bonnes avenues, d'où un appel aux autorités compétentes de trouver solution aux problèmes que soulève cette jeunesse. Olivier Adjoya est le président de cette structure juvénile. Il explique au micro de Guylaine Kassassia.
Dans le cadre de l'aspect infrastructure de base dans mon quartier, nous avons des défis liés à la santé, à la route et à l'éducation. Nous tenons à remercier les fonds sociaux pour les projets qu'il est en train de mener dans le quartier, par exemple en construisant l'école primaire qui se localise et la réhabilitation de la route qui quitte le bureau de la commune jusqu'au cimetière de Benengoule. Nous sollicitons auprès des autorités du fonds social de nous amener les équipes dans l'intérieur aussi du quartier, parce que nous avons comme impression que les équipes en question se sont déjà concentrées seulement dans une seule avenue. À l'aspect des marchés, des stades par exemple pour l'encadrement des jeunes, nous plaidons auprès des autorités des affaires foncières. À chaque fois qu'il y a des lotissements dans les quartiers, qu'ils soient en train aussi de passer à la jeunesse, à les réservant les lieux qui pouvaient leur chaque fois servir pour le sport, et les lieux qui pouvaient chaque fois servir la communauté comme petit marché, aussi à nos autorités de nous aider dans les plaidoyers afin que le quartier soit donc vêtu d'un poste de santé qui sera communautaire en 100%.
Actualité internationale. Les pilotes de Kenya Airways quitteront enfin leur cellule de crise pour les cockpits de leurs avions. En effet, le tribunal des relations du travail de Nairobi a ordonné mardi à ses employés en grève depuis samedi de renouer avec leur travail dès ce mercredi matin et cela sans condition. Le tribunal demande également à la direction de la compagnie qui qualifie cette grève d'illégale de laisser les pilotes exercer leurs fonctions sans les harceler ni les intimider et surtout en ne prenant aucune mesure disciplinaire à leur encontre dans l'attente de l'instruction et de la décision de l'affaire. Les Américains étaient appelés aux urnes mardi lors d'élections de mi-mandat cruciales pour les deux dernières années de la présidence de Joe Biden. Les électeurs doivent renouveler la totalité des sièges de la Chambre des représentants et un tiers des sièges du Sénat. Par ici prend fin ce journal supervisé par Alain Rong Mouchinj, Polydor Basunga à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.